Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide à Washington, à la une de l'actualité, en ce lundi 9 septembre 2019. De nouvelles émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Le chef de l'État maintient qu'il ne tolérera pas l'anarchie. Le Nigeria va rapatrier 600 de ses ressortissants. Tête à tête entre le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir à Djouba pour faire avancer le processus de paix au Soudan du Sud. Visite du pape François à Maurice. Le chef de l'Église catholique demande de sauver les jeunes du fléau de la drogue. La crise du Brexit au Royaume-Uni, le Parlement va être suspendu après un vote sur des élections anticipées. Et comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. L'Afrique du Sud, toujours ébranlée par des attaques xénophobes. Le dernier bilan fait état de 12 morts. Le président Cyril Ramaphosa a encore une fois aujourd'hui dénoncé les violences. 600 Nigérians environ vont être rapatriés après ces émeutes. Compte rendu, Claire Morin-Gibourg.
Godwin Adamou, le consul nigérian à Johannesburg, a fait l'annonce. 600 ressortissants du Nigeria vont être rapatriés. Leur évacuation commencera mercredi avec les 320 premiers, a-t-il déclaré. Plus de 100 000 Nigérians vivent dans ce pays selon le consulat nigérian de Johannesburg qui ne donne pas de chiffres exacts. Après 3 jours d'accalmie, de nouveaux incidents ont éclaté dimanche dans plusieurs quartiers de Johannesburg. La police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser des centaines de manifestants armés de bâtons qui ont détruit des magasins en exigeant le départ des étrangers. Depuis une semaine, cette nouvelle vague de violence xénophobe a fait 12 morts. Le président Cyril Ramaphosa a réaffirmé lundi qu'il ne tolérerait pas l'anarchie et la violence dans son pays.
Au Cameroun, 2 ans de prison ferme pour le numéro 2 du parti de l'opposant Maurice Kamto. Mamadou Mota, premier vice-président du parti MRC, a été condamné aujourd'hui pour son implication dans la mutinerie du 22 juillet dernier à la prison centrale de Yaoundé, où il est écroué depuis juin. Le tribunal de première instance d'Ekounou à Yaoundé l'avait déjà reconnu coupable de rébellion. Groupe Mamadou Mota affirme que sa condamnation est purement politique. 12 autres personnes, dont un leader anglophone, Mancho Bibixi, ont écopé de la même peine. 2 autres ont été condamnés à 3 ans de prison dans le cadre de la même affaire. La plupart des condamnés sont des anglophones. Les autres sont du MRC. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé à Djouba aujourd'hui pour sa première venue en 1 an dans la capitale, où il a rencontré le président Salva Kiir pour discuter de paix et des conditions de sécurité. Les derniers développements avec Yacouba Ouidraougou.
Notre réunion s'est concentrée sur les arrangements de sécurité parce qu'il s'agit d'une des dispositions fondamentales de l'accord de paix signé en 2018, a déclaré à la presse l'adjoint à Machar, Henri Odoa, après la rencontre des 2 hommes à la présidence. « Il y a des défis et nous prions pour les surmonter », a-t-il ajouté. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les 2 hommes assis à la même table et Kiir serré la main de Machar. Machar, qui vit en exil à Khartoum, est arrivé dans un avion soudanais, précédé par 2 autres appareils transportant une large délégation d'une 60aine de personnes. Cette visite de 2 jours intervient alors que la date butoir, fixée à début novembre pour la formation du gouvernement transitoire, est proche. Ce gouvernement devait initialement être formé en mai. Mais M. Machar, se disant inquiet des conditions de sécurité, avait obtenu un délai de 6 mois pour permettre le cantonnement de ses combattants et leur intégration dans une armée unifiée.
Près de 300 000 personnes ont dû quitter leur foyer pour vivre dans des centres d'accueil au Burkina Faso et 500 000 autres ont été privés de soins en raison des attaques armées des groupes djihadistes. C'est ce que l'ONU et la Croix-Rouge ont indiqué aujourd'hui. Autre conséquence des violences armées, la famine et la malnutrition constituent une préoccupation majeure, avec 1,2 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire, d'après la Croix-Rouge. Depuis début 2015, les attaques djihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du Burkina, ont fait plus de 570 morts. Au Mali, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre l'insécurité et les assassinats à Banzagara, dans le centre du pays, région confrontée aux affrontements intercommunautaires et aux attaques djihadistes. Le collectif des associations des jeunes du pays Dogon indique avoir enregistré une cinquantaine de cas d'assassinats depuis la dernière visite du Premier ministre Boubou Cissé en août dernier. Le collectif affirme que la situation n'est pas maîtrisée et dit ne pas comprendre le mutisme du gouvernement. Les manifestants de Banzagara réclament notamment de pouvoir rentrer cultiver leur champ. Visite d'une journée du pape François à Maurice aujourd'hui. Elle coïncide avec le 150e anniversaire de la mort du père Jacques-Désiré Laval, béatifié par Jean-Paul II. Devant près de 100 000 fidèles, le souverain pontife a appelé à prendre soin des jeunes du pays, sacrifiés à ses yeux sur l'autel d'un modèle économique idolâtre, dit-il. Compte rendu, Salwa Jafari.
Les Mauriciens sont venus nombreux au monument Marie-Reine de la Paix, 30 ans après la visite de Jean-Paul II sur cette île de l'océan Indien.
C'est une grande occasion qu'on a eue pour notre île et en même temps on sait que les papes savent quelle est la cause des Sargossiens. C'est pour ça qu'on est là, pour lui accueillir avec la joie et prier ensemble avec toutes les autres familles mauriciennes.
Le pape François a insisté sur l'écoute des jeunes qu'il faut sauver du fléau de la drogue qui sévit dans cet état insulaire.
C'est une chose difficile à dire, mais malgré la croissance économique que votre pays a connue au cours des dernières décennies, ce sont les jeunes qui souffrent le plus. Ils souffrent du chômage, ce qui crée non seulement une incertitude quant à l'avenir, ils ne croient pas qu'ils jouent un rôle important dans votre histoire commune.
Avant de conclure cette célébration,
le pape argentin achève ainsi une tournée qu'il aura menée au Mozambique et à Madagascar, où il a mis en garde contre la déforestation, la corruption et les inégalités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité européenne, toujours dominée par le Brexit. Le Premier ministre britannique est revenu à la charge aujourd'hui. Boris Johnson veut convaincre les députés très réticents d'approuver des élections législatives anticipées. Ultime tentative pour mettre en œuvre sa stratégie de sortie de l'Union européenne à tout prix avant la suspension du Parlement pour 5 semaines. Davantage avec John Lydon.
Selon le porte-parole du 10 Downing Street, le Parlement britannique sera suspendu jusqu'au 14 octobre, 2 semaines avant la date prévue pour le Brexit. Dans leur ultime séance ce lundi, les députés doivent voter pour ou contre les élections anticipées voulues par Boris Johnson. La mesure a suscité une vague d'indignation lorsqu'elle a été annoncée fin août en Grande-Bretagne. Le Premier ministre a été accusé de manœuvrer pour précipiter un Brexit sans accord. Ce lundi, la reine Elisabeth II a formellement approuvé la loi qui contraint le gouvernement britannique à solliciter un report du Brexit auprès de l'Union européenne. L'Union européenne, justement, indique qu'elle n'a reçu à ce jour aucune proposition réaliste de Londres. Une sortie sans accord aura un effet singulier sur l'Irlande, seul pays ayant une frontière terrestre avec le Royaume-Uni. D'ailleurs, Boris Johnson a eu ce lundi une autre rencontre avec le Premier ministre irlandais.
Le président américain Donald Trump a vigoureusement contesté les informations selon lesquelles sa volonté d'organiser une rencontre avec les talibans à Camp David aux États-Unis avait fait l'objet de vifs désaccords au sein de son équipe. Beaucoup de fake news selon lesquelles j'aurais tranché contre l'avis du vice-président et de divers conseillers sur une rencontre éventuelle avec les talibans à Camp David, a tweeté le locataire de la Maison Blanche. Cette histoire est fausse, a-t-il martelé. Les talibans menacent de faire souffrir plus que tout autre, je cite, les États-Unis après la rupture par le président Trump des pourparlers sur le conflit en Afghanistan, même si les deux parties ont laissé la porte ouverte à une future reprise du dialogue. Le temps presse, c'est ce qu'a lancé aujourd'hui la IEA au gouvernement iranien, exhorté à coopérer pleinement avec le gendarme onusien chargé de contrôler les activités nucléaires de l'Iran au moment où ce pays a franchi marcher une nouvelle étape dans la réduction de ses engagements. Au retour d'un déplacement à Téhéran ce week-end, le directeur général par intérim de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Cornel Ferruta, a insisté sur l'implication qu'il avait demandée à ses interlocuteurs iraniens dans leur pourparler avec les équipes de l'AIEA. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. D'emblée, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
La plateforme togolaise e-agribusiness a signé un accord avec le groupe chinois Kanfeng Aviation pour promouvoir les drones agricoles en Afrique de l'Ouest. Selon Togo First, l'accord prévoit l'ouverture d'une usine de fabrication de drones au Togo, ainsi qu'un centre censé former chaque année des agriculteurs et environ 500 pilotes de ces appareils dans la sous-région. Au niveau mondial, le nombre de touristes a progressé de 4% au premier semestre de cette année pour s'élever à 671 millions, soit presque 300 millions de plus que l'an dernier. L'Organisation mondiale du tourisme explique cette croissance par une économie solide, des voyages aériens plus abordables, une meilleure connectivité et une plus grande facilitation des visas. Cette croissance a été tirée par le Moyen-Orient avec plus de 8% et l'Asie Pacifique avec plus de 6%. L'Afrique a connu une croissance plus modérée avec plus de 3%, suivie des Amériques avec plus de 2%. Pour terminer cette minute éco, les pays producteurs de pétrole doivent évoquer jeudi à Abu Dhabi de nouvelles baisses de leur production pour soutenir les prix. L'Arabie Saoudite, qui assure le tiers de la production de l'OPEP, se dit favorable à la poursuite de cette politique qui, selon elle, devrait bénéficier à tous les pays membres de l'OPEP. Le prix du baril se situe autour de $60 contre environ $75 il y a un an.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
On connaît les premiers qualifiés des préliminaires en éliminatoire du Mondial 2022.
Oui, ça passe pour l'Éthiopie après un nul, un but partout au Lesotho. Pour la Guinée équatoriale également, qui a dominé le Soudan du Sud 1-0. Et pour le Libéria, pourtant battu 1-0 en Sierra Leone, les Lone Stars avaient remporté le match aller 3-1 à domicile. Le Burundi au tapis, les Hirondelles ont été éliminées après les tirs au but en Tanzanie. La suite demain avec les 10 dernières affiches dont Togo, Comores, Soudan, Tchad et Rwanda, Seychelles.
À suivre également demain les matchs retour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Après son match nul 1-1 à domicile, le Maroc fera face au Mali demain à Bamako pour la rencontre retour. Dans le cadre de la préparation de ce match, les Lionceaux Espoirs ont disputé un match amical face aux étalons du Burkina ce week-end. Victoire des Marocains 1-0, pas trop rassurant pour le coach Patrice Baumel qui se méfie de l'adversaire malien.
Pas le meilleur des résultats, ceci dit, c'est comme si c'était un 0-0. Il nous faudra marquer à Bamako et pas encaisser de but. L'équipe du Mali a une certaine maturité, ce sont des joueurs qui se connaissent, on le voit dans les mécanismes, les automatismes. Mais on a un match retour et on va vendre très cher notre peau parce que il y a eu quelques messages sur le terrain deuxième mi-temps. Il va falloir y aller, faire un match d'homme. Et je pense que les garçons, sur la deuxième mi-temps, ils ont vu qu'il faut être des hommes de la première mi-temps à la deuxième.
Patrice Baumel au micro d'Amine Birouk, notre correspondant au Maroc. Dans les autres rencontres, toujours demain, le Nigeria voudra refaire son retard à domicile devant le Soudan. Vainqueur 1-0 à l'aller. Opération confirmation pour l'Afrique du Sud en déplacement au Zimbabwe battu 5-0 à l'aller. Avance pour la Guinée victorieuse face à la Côte d'Ivoire à Abidjan 1-0. Le Cameroun sera en Tunisie avec un but d'avance sur les Tunisiens, défait 1-0 à Yaoundé. Rien n'a encore joué entre l'Algérie et le Ghana après le match nul 1-1 à Accra. La compétition se déroulera en Égypte en décembre.
Et puis la Grèce du MVP de la NBA éliminée du mondial de basket.
La Grèce de Gianni Antetokounmpo ne verra pas le top 8 du mondial de basket après sa victoire insuffisante sur la République tchèque, 84-77. Les Grecs avaient besoin de l'emporter avec 12 points d'écart pour passer. Les quarts de finale opposeront mercredi les États-Unis à la France et l'Australie à la République tchèque. Demain, l'Espagne affrontera la Pologne et la Serbie défiera l'Argentine. Côté africain, en s'inclinant devant la Jordanie sur le score de 79-77 en match de classement, le Sénégal concède non seulement seulement son cinquième revers en autant de sorties, mais rate aussi la qualification au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Nigeria représentera l'Afrique à ce tournoi qualificatif.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de vous proposer notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Et nous mettons le cap d'abord sur le Sénégal. À Dakar, la capitale, les fortes pluies du mois de septembre ont plongé une nouvelle fois une partie de la population dans les inondations. Plusieurs quartiers sont envahis par les eaux après chaque pluie. Une situation qui dure depuis plusieurs années, causant de nombreux désagréments aux habitants. Le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Après la pluie, ce n'est pas le beau temps à Dakar car les populations sont souvent envahies par les eaux. Dans la banlieue dakaroise, c'est une situation qui dure depuis plusieurs années. Nongodia liste les conséquences de ces inondations qui peinent à être résolues.
Ça, c'est une grande marée. On peut l'appeler même un marigot. Ça, c'est très dangereux. Non seulement il y a les moustiques qui vont infecter ici pour créer le paludisme. Ensuite, les petits enfants peuvent y noyer. Bon, ce matin, lorsque je partais au travail, j'ai trouvé une calèche avec le cheval. Bon, depuis le régime précédent du président Abiy, je voyais ça. Ça a eu plus de 50 ans. S'il y a des problèmes, on dit que c'est un accident, crève, etc. Ou c'est la volonté divine. Regarde comme les camions, regarde les véhicules là.
Certains chefs de famille voient les eaux envahir leur domicile et y causer d'énormes dégâts. Abdoulaye confie qu'il a failli perdre la vie à cause d'une défaillance électrique.
L'eau est entrée quand nous avons ouvert la porte de la maison. Partout où c'était de l'eau, le compteur de la maison a pris feu. J'ai été même blessé par les flammes. Vous avez vous-même vu de vos propres yeux. C'est très dangereux.
Le manque d'aménagement et d'assainissement est la principale cause des inondations dans Dakar et sa banlieue, une situation qui est due aux constructions anarchiques de certaines zones, selon Omar Cissé, ingénieur civil et environnementaliste.
Les difficultés liées à l'aménagement, c'est normal. C'est des zones où la production urbaine a été populaire informelle. Il y a eu un cycle de sécheresse et des cycles de retour, peut-être forcément, des populations qui se trouvent dans des dépressions humides deviennent inondés.
Les bassins de rétention construits dans la banlieue sont des solutions temporaires, mais il faudrait des investissements plus conséquents pour résoudre définitivement le problème des inondations.
Aujourd'hui, du travail important a été fait dans la banlieue. Des bassins ont été aménagés, des canaux ont été aménagés. Elles ont sorti quand même. Nous l'avons prouvé dans nos travaux. Nos analystes spatiales ont montré que dès leurs implantations, ces ouvrages ont sorti, ont libéré certaines bonnes parties du territoire de l'eau. Mais nous ne nous y trompons pas. On ne peut pas régler définitivement la question du drainage des eaux pluviales si on ne prend pas en compte la question de l'assainissement des eaux usées, si on ne prend pas en compte la question de la gestion des eaux ménagères.
Au Sénégal, le gouvernement a investi des dizaines de milliards dans différents programmes pour gérer les inondations dans Dakar et sa banlieue. Mais malgré les efforts des autorités, les populations continuent de souffrir après chaque goutte de pluie. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Les agriculteurs kényans espèrent bénéficier de prêts assurés qui les aideront à acheter des intrants et des semences. Contrairement à d'autres prêts de banque commerciale, le programme de crédit pour risques éventuels est une initiative d'un organisme basé à Washington pour protéger les agriculteurs des pertes résultant des mauvaises récoltes causées par le changement climatique. Le point avec Lionel Gaïma.
Ces quatre dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de pluie sur le comté de Machakos. Les agriculteurs ont été désespérés. Le changement climatique a eu l'effet sur les cultures et les a appauvris. Ils ont été contraints de s'approvisionner sur les marchés au lieu de vivre de leur récolte. L'aide est arrivée en 2017, juste avant une nouvelle sécheresse, sous la forme d'une facilité de prêt surnommée le dispositif de risque subsidiaire. C'est l'idée originale de l'Institut international de recherche de politique alimentaire IFPRI. Lin Zuyu est responsable de ce projet.
Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Les agriculteurs ne peuvent pas rembourser les emprunts. Bien sûr, avec les pluies, vous avez une bonne récolte, vous devez payer vos dettes avec une prime d'assurance.
Pour Esther Muiruri, directrice de la Equity Bank à Nairobi, c'est différent de pratiques traditionnelles des banques commerciales qui évitent de faire de prêts à des petits agriculteurs.
Pour un art, nous leur donnons environ 10 000 shillings kenyans, soit 97 dollars américains, pour qu'ils puissent acheter des engrais, des semences et autres produits dont ils ont besoin pour leur culture.
Les agriculteurs reçoivent ces prêts après avoir suivi une formation en agronomie, ainsi que des cours d'alphabétisation et dans le domaine des finances. Béatrice Ndavi a pris le premier prêt et fait partie de 265 agriculteurs qui ont contracté un deuxième emprunt cette semaine.
Avant que les banques ne commencent à nous accorder des prêts, la production était très faible car nous utilisions uniquement du fumier. En revanche, lorsque nous avons commencé à utiliser ces engrais, la production s'est améliorée.
Le projet est encore en sa phase pilote, mais il est prévu de le reproduire dans d'autres pays africains.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Et donc, rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Washington a laissé la porte ouverte à de nouvelles négociations avec les talibans sur le conflit en Afghanistan, rompu hier par le président américain Donald Trump. Mais les insurgés ont menacé les États-Unis d'une souffrance, je cite, sans précédent pour leur revirement. Le président Trump avait annoncé une réunion secrète à Washington avec son homologue afghan Ashraf Ghani et avec les chefs des talibans. Ensuite, le président Trump dit avoir annulé la rencontre après la mort d'un soldat américain en Afghanistan. Mais l'idée même de cette réunion à Camp David a été critiquée par les démocrates et certains républicains. Pour une analyse, Abdourahman Dia s'est entretenu avec Brett Bruen, président de la Global Situation Room.
C'est une mauvaise décision d'avoir invité les leaders du Taliban. Nous avons pour presque 20 ans lutté contre non seulement l'idéologie, mais aussi contre les risques qui représentent le Taliban. Et pour l'instant, j'ai vu aucune information qui est sortie que le Taliban est prêt de changer ses méthodes, son idéologie. Et pour moi, c'était une décision étonnante sortie de la Maison-Blanche.
Effectivement, certains critiquent le président Trump d'avoir même cherché à inviter les talibans à Washington, mais cela va bientôt faire 20 ans que cette guerre dure. Il faut quand même négocier, non?
Il faut négocier, bien sûr. Et à mon avis, on devrait négocier. Même, on pourrait avoir des réunions entre les leaders. Je ne suis pas sûr que le président a besoin d'y être, mais d'avoir invité le Taliban aux États-Unis au Camp David, un retraite présidentielle assez important dans la culture américaine. Pour moi, c'était une honte, c'était quelque chose qui vraiment représentait une forme de promotion pour le président, un show, au lieu d'avoir un vrai processus de négociation.
Alors justement, ces négociations durent depuis quelques mois et on nous annonce qu'un accord est proche depuis quelques semaines. On n'a pas encore cet accord. Vous êtes optimiste qu'il y aura un accord?
Moi, personnellement, non. Parce que l'information qui est sortie, selon dans les différentes sciences avec lesquelles j'ai parlé, c'était un accord assez faible en termes des termes, par exemple, les droits des femmes n'étaient pas présents. Les conversations avec le gouvernement afghan vont seulement commencer après la signature de cet accord.
Il ne faut pas oublier aussi le groupe État islamique qui est là-bas.
Et pour moi, c'est un autre facteur important parce que l'accord qui négociait était un accord sur lequel les talibans ne vont pas permettre à Al-Qaïda d'y rester à Afghanistan. Et n'ont pas mentionné, selon l'information que j'ai vue, l'État islamique qui représente peut-être une risque majeur aux États-Unis, à nos amis dans la région.
On écoutait Brett Bruen, président de la Global Situation Room. Il était au téléphone ici même à Washington, la capitale américaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une agence de surveillance du gouvernement fédéral américain affirme que les enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière américano-mexicaine l'année dernière souffrent d'une profonde détresse, de sentiments d'abandon et d'autres problèmes de santé mentale graves. Eric Manerakiza.
Le bureau de l'inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux fonde son rapport sur des entretiens avec environ 100 agents de santé mentale qui ont eu des échanges avec les enfants séparés. Selon les gardiens, certains enfants pleuraient de manière inconsolable, d'autres étaient en colère et confus, croyant avoir été abandonnés par leurs parents. Le docteur Louis Krauss est le chef de psychiatrie infantile au centre médical de l'université Rush.
Même avec de petites périodes d'absence, vous pouvez être affecté constamment. Mais de plus longues périodes d'absence, de plus longues périodes de traumatisme, de plus longues périodes de négligence vont probablement avoir des répercussions permanentes et une symptomologie pour ces enfants qui vont potentiellement être bouleversés tout au long de leur vie.
Les enfants ont été séparés de leurs parents à partir de 2017. Mais officiellement reconnu en avril 2018 sur ordre du ministre de la Justice de l'époque, Jeff Sessions. Il avait appelé à la tolérance zéro à l'égard des migrants qui tentent d'entrer illégalement aux États-Unis. Mais après un tollé national et international, le président Donald Trump a abandonné cette politique de séparation quelques semaines plus tard. Le gouvernement a par la suite reconnu que plus de 700 enfants avaient été séparés de leurs parents depuis 2017 dans des conditions toujours difficiles à la frontière. Trump a fait de la protection de la frontière et de la politique de lutte contre l'immigration illégale la marque de son mandat. Il a promis de prolonger considérablement le mur à la frontière comme stratégie pour sa campagne de réélection en 2020.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, une émission de La Voix de l'Amérique, demi-heure d'infos et de sujets en profondeur. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Michael Dubinsky était à la technique. Et voilà, chers amis fidèles de la VOA, merci de nous avoir accueillis chez vous ce soir encore une fois. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.